Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État a promulgué hier mardi 3 décrets nommant entre autres au gouvernement et à la territoriale de nouveaux ministres, vice-ministres, de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Ces réaménagements institutionnels suscitent déjà des interrogations avec la nomination de deux officiers supérieurs des FARDC, l'un à la tête du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa et l'autre à la tête du ministère de l'Intérieur. Faut-il le mentionner, ces nominations qui jusque-là ne concernent que la composante ex-gouvernement font suite à la validation des mandats à la nouvelle Assemblée nationale des députés élus le 30 juillet dernier. Et comme toujours, nous recevons déjà des commentaires et des réactions de nos auditeurs sur ces sujets. Ainsi, Auguste de Kindu Maniema dit ceci: c'est avec une grande surprise que nous apprenons la nomination des militaires à la tête de la province de Kinshasa et aux affaires intérieures comme si nous étions dans l'état d'urgence. Saline Diaï de Lubumbashi au Katanga trouve que ce remaniement doit être vite fait pour permettre à la démocratie de décoller. Ambroise Chimanga de Demba au Kasaï occidental demande aux composantes de ne pas nommer des détourneurs des deniers publics. Et Corneille de Goma au Nord qui vous trouve que la nomination de ce nouveau ministre n'était pas nécessaire car il ne reste qu'un mois pour que la transition prenne fin. Comment interpréter ces nominations? Quand est-ce que les autres composantes vont procéder au remplacement de leurs membres qui sont dans les institutions de la transition? Réponse à ces questions avec Lambert Mende, porte-parole adjoint de l'Alliance de la majorité présidentielle, professeur Echawa Luenga, conseiller juridique de Jean-Pierre Bemba, Hubert Effolé, secrétaire général du RCD que nous avons convié à cette émission, mais qui malheureusement n'a pas répondu à celle-ci, et maître Thomas Luango, analyste politique et chargé des cours à l'Université catholique de Bukavu. Et nous disons bonsoir à tous nos invités.
Bonsoir.
Bonsoir, mademoiselle.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Encore une fois, bonsoir et merci de suivre cette émission. Le chef de l'État a promulgué hier mardi 3 décrets portant nomination de nouveaux ministres, vice-ministres, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ainsi que de certains membres de son cabinet. Ces nouvelles nominations font suite à la validation des mandats des députés nationaux et elles concernent uniquement la composante ex-gouvernement. D'autres détails avec vous, Freddy Mufuluabo.
Deux postes importants sont désormais occupés par des militaires. Le général Denis Kaloumé Numbi, ancien conseiller militaire du chef de l'État, prend le ministère de l'Intérieur, un ministère chargé de superviser la police nationale qui assure la protection des personnes et de leurs biens. Autre poste important occupé par un militaire est le gouvernorat de la ville de Kinshasa, confié à l'amiral Liwanga. Quant à l'ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale de transition, Philomène Omatuku, l'autre poids lourd du PPRD, elle est nommée à la tête du ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises. Augustin Simanga à l'énergie, le docteur Zachary Kachongwe à la santé publique. Deux vice-ministres, Jean Komani aux mines et Astrid Bouka à l'enseignement primaire et secondaire. Mutombo Bakafansenda devient gouverneur du Kasaï occidental et Jacques Mbadou, président de la commission anticorruption, celui du Bas-Congo. Toujours dans la territoriale, trois vice-gouverneurs sont également nommés. Tchawili Kaila au Katanga, Kuba à Kilimani au Nord Kivu et Kuseya Gatanga dans la province orientale.
Merci Freddy Lufuluabo pour ces retours même sur les nominations qui ont été faites par le chef de l'État hier mardi. Et nous commençons directement par signaler à nos invités que les règles du jeu sont on doit, au cours de cette émission, avoir des propos courtois, ne pas avoir des écarts des langages, mais également respecter les temps de parole qui sera accordé à chacun de nos invités. Et nous commençons tout de suite par vous, Monsieur Lambert Mende. Vous êtes porte-parole adjoint de l'Alliance de la majorité présidentielle. Comment est-ce que d'emblée vous pouvez interpréter ces nominations au gouvernement et au niveau de la territoriale à la veille même du second tour de l'élection présidentielle?
Je pense qu'il s'agit simplement de l'application de dispositions de notre Constitution qui frappe d'incompatibilité avec certaines fonctions le mandat de parlementaire, membre de l'Assemblée nationale. Dès lors que nous avons des élus qui, par ailleurs, exerçaient des fonctions qui sont incompatibles avec un mandat de membre de l'Assemblée nationale, il appartenait aux élus eux-mêmes et aux composantes ou entités, parce que nous sommes encore en fin de période de transition, de tirer les conséquences de cette disposition constitutionnelle. Le président de la République l'a tirée. Je pense que c'est une façon d'attirer l'attention de ceux qui partagent l'espace politique de la transition avec lui sur la nécessité de se conformer scrupuleusement à cette disposition constitutionnelle.
Alors, il y a une première question d'un auditeur, il s'appelle Ephrem Kambalé. Il nous écrit d'Ouvira au sud Kivu. Pourquoi les remplacements des députés tiennent compte des composantes alors que bientôt nous aurons un gouvernement légitime, monsieur Lambert Mende?
Je voudrais qu'il sache que en cette matière, nous appliquons les dispositions de l'article 222 de la nouvelle Constitution, qui stipule clairement que les institutions de la transition demeurent en fonction et continuent à exercer leurs attributions conformément à la constitution de la transition. C'est la nouvelle constitution qui l'a décidé ainsi. Donc pour remplacer ces ministres ou ces parlementaires, il y a des sénateurs qui ont dû aussi quitter, on est en train de les remplacer. Je suis rapporteur du Sénat, on m'a remplacé par M. Mubindu Kila. On respecte les dispositions de la constitution de la transition, selon lesquelles ce sont les composantes, ce sont les entités qui nomment, qui proposent à la nomination.
Oui, une autre question, elle est de Victor de Mwanda au Bas-Congo. Pourquoi ne pas laisser les secrétaires généraux gérer les affaires courantes, car chaque fois qu'il y a remaniement, nous, peuple, ne nous retrouvons pas?
C'est une logique que je comprends, mais qui n'a rien à voir avec le prescrit de la loi et de la Constitution. Une chose est d'estimer une disposition ou un dispositif préférable, une autre, est de se conformer à la Constitution. La Constitution n'a pas prévu que nous donnions aux secrétaires généraux le pouvoir d'assurer l'intérim de leur ministre. La Constitution prévoit que le gouvernement demeure en place. Et donc il fallait absolument habiller le gouvernement pour le rendre apte à continuer à gérer jusqu'à ce qu'on mettra en place un gouvernement issu de procédures de l'Assemblée nationale notamment.
Oui, nous sommes également dans ce studio avec le professeur Echawa Luenga. Il est conseiller juridique du vice-président Jean-Pierre Bemba. Vous avez également suivi ces remaniements. Comment est-ce que vous, dans votre camp, votre composante, interprétez d'emblée ces remaniements même au sein du gouvernement et au niveau de la territoriale?
Oui, merci de m'avoir invité dans votre studio pour la deuxième fois. De toute façon, je pense que par principe, l'honorable Lambert Mende a raison de souligner que la Constitution prévoit des incompatibilités. On ne peut pas discuter avec la Constitution, c'est la charte fondamentale de la République, et que donc, s'il y a incompatibilité, il faut naturellement remplacer. Et on a donné le choix aux ministres, on a donné le choix aux administrateurs pendant 8 jours pour pouvoir se prononcer. Et ce délai arrive à échéance aujourd'hui, d'après ce que j'ai suivi. Et que donc, à partir de ce moment-là, ceux qui se seront décidés vont aller soit à l'Assemblée nationale. Et ils avaient aussi la possibilité de rester au gouvernement. La Constitution leur donnait la possibilité de faire le choix. Et cela étant dit, donc, il n'y a pas d'événement majeur par rapport à ça. C'est logique et normal. Et quant à savoir pourquoi il n'y a que des composantes qui a décrété hier, eh bien, je pense que ce n'est pas non plus un sujet à controverse. Les conditions de la transition prévoient naturellement que chaque composante puisse nommer ses ministres au sein du gouvernement. Là, c'est la composante ex-gouvernement qui a nommé ses ministres. Je pense que
composante, qu'est-ce qu'elle attend?
Oui, je veux répondre à la question. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes majeurs par rapport à ça. Je pense que dans les heures qui vont suivre, il y a d'autres décrets qui vont arriver et que le président de la République va pouvoir nommer les autres membres du gouvernement qui viendront des autres composantes, même si, de mon point de vue, il aurait été souhaitable qu'un décret définitif puisse se consacrer et l'ensemble des ministres ensemble de la même manière et en même temps. Mais cela n'est pas un problème juridique. Hein. Le décret peut être signé pour les autres composantes. Et je n'y vois pas d'inconvénient majeur. Ça va être réglé. régler d'ici là. Sauf que, effectivement, s'agissant de ces nominations, vous l'avez dit, peut-être on reviendra. Et il y a un choix particulièrement inquiétant, ce choix militariste.
Oui, donc, nous allons revenir sur ce point-là, mais voyons avec Maître Thomas Luango, qui, je rappelle, est analyste politique et chargé des cours à l'Université catholique de Bukavu. Maître Thomas Luango, vous avez également suivi l'actualité avec ces remaniements, même à la tête de certains ministères et également au niveau de la territoriale. Mais est-ce que ces réaménagements répondent aux dispositions constitutionnelles, comme viennent de nous les dire nos deux invités ici présents?
Je pense que dans la Constitution, j'ai essayé de voir, il n'y a aucune disposition expresse qui dit ce qui doit être fait dans cette brève période entre la validation des mandats au Parlement, à l'Assemblée nationale, d'un côté, et le moment où les institutions seront toutes en place. Toujours est-il que les règles du système qu'on a mis en place, c'est que 8 jours après la validation des mandats, les députés dont les mandats ont été validés doivent lever une option. Je crois que ce qu'ils ont fait, il y en a qui ne l'ont pas encore fait, mais si j'ai bien compris, ça va jusqu'à ce soir, à 24 heures, tout à l'heure, et ils vont donc choisir. Donc, dans la logique même du texte, en l'absence d'un texte extrait, effectivement, un texte extrait dans la Constitution, effectivement, l'option devait être levée, et je crois qu'effectivement, on pouvait le remplacer, encore que peut-être d'autres solutions étaient possibles, par exemple, que d'autres ministres auraient assuré l'intérim.
Oui, et par exemple, la question qu'a posée notre auditeur de Moanda au Bas-Congo, qui voulait savoir pourquoi ne pas laisser les secrétaires généraux gérer les affaires courantes de ces pays, est-ce que cela ne vaut pas la peine de réfléchir à cela au lieu de faire des nominations à la veille même ou bien à un mois de la fin même de la transition, si on peut le dire ainsi?
Oui, cette solution des secrétaires généraux, j'en ai déjà parlé. Seulement, c'est une situation, c'est vrai, on l'a vu dans un pays comme la Belgique pendant la guerre, mais il y avait besoin de faire face à l'impossibilité pour les ministres de fonctionner. Ils étaient réfugiés à Londres, d'autres étaient dispersés. Dans ce cas-ci, je crois que les ministres ne sont pas dans l'impossibilité de fonctionner. Les secrétaires généraux, donc, si ce n'est pas un cas extrême comme celui qu'on a vu en Belgique, à première vue, un secrétaire général n'étant pas un homme politique ne peut pas faire l'intérim d'un homme politique. Les perspectives ne sont pas du tout les mêmes, les pouvoirs, les obligations, les interdits ne sont pas les mêmes. Par contre, je m'imagine qu'on aurait pu penser à laisser fonctionner le gouvernement avec d'autres ministres qui feraient l'intérim. Difficulté, évidemment, parce que surtout si j'entends bien ce qui vient d'être dit par mon frère Lambert Mende, on serait encore aujourd'hui dans la logique des composantes. Évidemment, dans ce cas-là, il n'est pas certain que chaque composante allait garder suffisamment de ministres pour faire l'intérim des autres membres de la même composante. Je pense qu'effectivement, on courait devant une difficulté. Ce sera peut-être l'argument pour justifier, en fait, si pas en droit, le fait qu'on ait procédé à des nominations dans l'immédiat.
Alors, les nominations faites à la tête du gouvernorat de la ville de province de Kinshasa et à celle du ministère de l'Intérieur suscitent des interrogations. À ces propos, d'ailleurs, je vous invite à suivre la question de cet auditeur à partir de Bukavu. Suivant.
Je m'appelle Maïcha, j'interviens à partir de Bukavu. Pourquoi la nomination des officiers militaires dans des postes politiques alors que l'article 100 88 de la Constitution dit que l'armée est apolitique. Que cherchent les composantes et ce gouvernement? Est-ce que le pays est en guerre ou en cas de siège? C'est ça ma question.
Oui, Monsieur Lambert Mende, vous avez suivi cette question. Quelle réponse vous réservez à notre auditeur des Bukavu?
Mais je voudrais que Monsieur Maïcha dédramatise cette situation. Dans la mesure où il n'y a aucune disposition dans la Constitution par ailleurs qui interdit à un officier de l'armée d'exercer des fonctions dans le gouvernement de transition. Deuxièmement, nous avons bien rappelé, après avoir lu l'article 222, que les institutions de la transition qui terminent leur mandat fonctionnent conformément à la constitution de la transition. Et il nous a lu une disposition de la nouvelle constitution. Je crois que là, nous sommes à deux niveaux tout à fait différents. Ensuite, je pense qu'il faut rentrer dans les motivations profondes de la composante ou de l'entité qui désigne un officier militaire. Il faut savoir si l'officier militaire est en activité, il faut savoir quel est son statut personnel et il faut savoir quel est le problème qu'on a à résoudre aujourd'hui dans la ville de Kinshasa et dans le pays. Je pense que M. Maïcha vit avec nous dans ce pays, il sait ce qui se passe au niveau de la sécurité, il sait ce qui se passe au niveau de Kinshasa où on a un défi de désarmement des unités, nous avons des unités de nos partenaires extérieurs, nous avons notre police, nous avons la police militaire qui sillonne la ville parce qu'on estime qu'il y a trop d'armes. Est-ce que la motivation n'est pas à rechercher dans ce souci d'efficacité pour réussir un désarmement dont dépend pour une large part la réussite des opérations électorales à venir?
Alors, signalons que plusieurs auditeurs ont posé cette question et même un autre ici s'appelle Rifin. Il nous écrit de Kisangani, province orientale. Pourquoi nommer des militaires au poste clé au moment d'aller aux élections? Est-ce conforme à la Constitution? Vous pouvez nous affirmer cela? C'est conforme à la Constitution?
Tout à fait. Ça ne viole pas la Constitution de la transition. Et je voudrais dire ici que ce ne sont pas ces structures à la tête desquelles des militaires ont été déployés qui organisent les élections. Vous savez très bien qu'on a neutralisé et l'administration du ministère de l'Intérieur et a fortiori les gouverneurs de province dans le processus de l'organisation des élections. Il n'y a que la CEI qui intervient du début du processus jusqu'à la proclamation des résultats ensemble avec la Cour suprême de justice. Donc, il faut vraiment pas chercher la petite bête. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Le gouverneur de la ville n'intervient pas dans les élections. Mais il y a des problèmes que le ministère
de l'Intérieur doit... Mais la sécurisation des élections, ça revient quand même.
Et on cherche le plus efficace. Je pense que c'est cela. Aujourd'hui, on doit se dire quelle est la solution la plus efficace à ce problème récurrent d'insécurité qui entoure les élections.
Oui, avant de passer la parole donc et de faire réagir nos autres invités, un autre auditeur, parce que comme je l'ai souligné, cette question a beaucoup intéressé nos auditeurs, Dieudonné Kombe à Lubumbashi au Katanga. Pourquoi la nomination des militaires au ministère de l'Intérieur et au gouvernement de Kinshasa, est-ce pour intimider la population, Monsieur Lambert Mende?
Intimider la population à la veille des élections, je ne sais pas. Est-ce que la meilleure façon d'intimider la population, ce n'est pas simplement de dire que les élections n'aient plus lieu? Je pense que c'est le moment, au contraire, où la population doit être mise à l'aise. Je pense qu'on cherche à sécuriser davantage la population, parce qu'il y a quand même des menaces qui pèsent sur la sécurité de la population. Et il n'y a aucun acteur politique que je connaisse, aucune composante, aucune entité, puisque nous parlons de la logique des composantes, qui n'aient exprimé ces derniers temps des préoccupations, des soucis en matière de sécurité. Et je pense qu'en faisant cela, la composante ex-gouvernement, le président de la République, essaye au contraire de sécuriser la population, de lui donner l'environnement le plus sûr possible pour aller aux élections.
Toujours à ces sujets, Dany Abounia, province orientale, un militaire fait-il partie de la famille politique du président comme l'actuel ministre de l'Intérieur? Un autre auditeur fidèle, Matata de Goma au Nord, qui vous demande: si un militaire est nommé à un poste politique pour le compte d'une composante, est-ce que ce militaire devient aussi membre de cette composante, sachant que les militaires n'ont pas de parti politique?
Encore une fois, je voudrais renvoyer au statut personnel des militaires en question. Je crois que nous parlons de personnes que nous ne connaissons pas. Il y en a qui ont été déjà mises à la retraite. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est un militaire retraité. Vous vous souvenez que c'était le responsable de l'état-major général et qu'il a été mis à la retraite. Il y a eu des cérémonies il n'y a pas longtemps. Donc ce n'est pas un militaire qui est en activité. Vous le savez très bien, il y a eu des cérémonies ici. Il a été mis à la retraite dans des conditions honorables. Tout le monde le sait. Mais on garde le grade que l'on a.
Et le général Denis Kaloumé Numbi?
Je ne connais pas le statut personnel du général Denis Kaloumé. On le lui demandera, mais je ne doute pas que son statut ne soit pas fort éloigné de celui de son collègue qui a été désigné à la tête de la ville de Kinshasa.
Professeur Echawa Luenga, vous êtes, comme je le disais, conseiller juridique du vice-président Jean-Pierre Bemba. Et votre composante est également signataire de l'accord global et inclusif. Alors Marie de Bougna, province orientale, veut savoir si les militaires peuvent être ministres ou gouverneurs au regard des accords que vous avez signés à Sand City.
Oui, je vais tout simplement dire un peu de mots que je m'inscris en faux, hein, totalement en faux, et par rapport à l'argument avancé par l'honorable Lambert Mende. Même si l'intervenant, M. Maïcha, a cité l'article 188 de la nouvelle constitution, c'est à quoi il a opposé la constitution de la transition, je note que l'article 180, alinéa premier, de la constitution de la transition, qui semblait être l'argument de l'honorable Lambert Mende, dit clairement que les forces armées de la République démocratique du Congo sont nationales, républicaines et apolitiques. C'est-à-dire que cette disposition, nous l'avons non seulement dans la constitution de la transition, mais nous l'avons aussi, et sous des formules différentes, effectivement, et à l'article 188 de la nouvelle constitution. Donc l'argument de l'honorable Lambert Mende sur la constitution de la transition ne vaut pas. Effectivement, et il est particulièrement inquiétant, de notre point de vue, de voir ces choix militaristes à une époque, à une situation où nous avons vécu des moments très difficiles après le résultat du second tour. Et lorsque l'on sait que, après les résultats du premier tour, des chars sont sortis, non pas pour aller chasser des interarmés, mais pour naturellement encercler la résidence d'un candidat arrivé au second tour, nous pensons, et nous avons des craintes suffisamment légitimes, la preuve c'est que partout dans la République on se pose la question, nous avons des craintes légitimes que ces choix militaristes ne cachent d'autres choses, des ambitions et pas toujours louables en particulier, et ce n'est pas nécessairement de notre point de vue pour conjurer des éventuels troubles, parce que nous avons des services de l'État qui sont chargés de la sécurité, la police. On n'a pas besoin que ce soit un général des forces armées en tant que ministre de l'Intérieur qui va s'occuper de la sécurité de tous les jours. Il y a des services. Et Théophile Mbemba a fait ce travail pendant 4 ou 5 ans, si je ne m'abuse pas. Et ce n'est pas un gouverneur en tant que tel qui va descendre parce qu'il est militaire pour assurer la sécurité. Il y a toujours, encore une fois, des services de sécurité. Alors, la question la plus importante...
M. Lambert Mende a précisé que l'amiral Luanga était déjà retraité.
Oui, si ce qu'il dit est vrai, moi je n'ai pas assisté à la cérémonie, je ne l'ai pas vu à la télévision, hein, avec FAST qui a été organisé, disait-il, en honneur de l'amiral Luanga. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème s'il est déjà à la retraite. Hein, parce que souvenez-vous que la loi électorale disait qu'il fallait que ces militaires qui veulent concourir au pouvoir politique puissent d'abord renoncer à leur statut de militaire. S'il m'assure que le général Luanga est à la retraite, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais en revanche, il n'est pas sûr non plus de dire que le général Kaloumé est à la retraite. Et je suis sûr qu'il n'est pas encore à la retraite. Et dans ce cas-là, les problèmes se posent. Mais s'il est à la retraite, les problèmes ne se posent pas. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais s'il n'est pas à la retraite, c'est particulièrement inquiétant parce que l'armée est apolitique. Alors, le fait de dénommer un général, ça veut dire que on considère que l'armée et les généraux appartiennent à une des composantes, parce que ce sont les composantes qui nomment aujourd'hui. Et là, c'est particulièrement inquiétant parce que l'armée n'appartient pas à une des composantes. Ce serait ce que nous avons toujours dénoncé de l'autre côté, et naturellement dévier la mission première des forces armées qui sont un corps apolitique. Donc, je pense que l'honorable... Et Lambert Mende ne nous assure pas, mais en tout cas, nous avons des craintes légitimes par rapport à ces choix des militaires à un moment critique de notre pays, et ça laisse présumer des intentions et qui ne sont pas toujours louables.
Oui, avant de passer la parole à Maître Thomas Luango, nous allons revenir à vous, Monsieur Lambert Mende. D'aucuns pensent que ces changements seraient liés à des considérations d'ordre électoraliste. Est-ce le cas, le fait que vous ayez votre composante est nommée à certains postes des militaires? Est-ce le cas?
À moins que l'armée soit devenue tellement populaire dans ce pays pour penser que faire appel à un militaire ancien ou en activité serait électoraliste. À ma connaissance, ce sont des cadres congolais, ce sont des personnalités qui ont un niveau très élevé et je suis certain que leur statut personnel permet qu'ils puissent exercer ces fonctions-là, qu'ils ne sont pas des officiers qui sont en activité. Et je voudrais vraiment rassurer ceux qui s'inquiètent de la militarisation de nos institutions sur l'esprit de paix qui caractérise le président de la République. Mon interlocuteur a parlé de chars qui sont sortis, pas pour chasser des interahamwés, je veux bien dire. Les chars sont sortis pour protéger des Congolais, parce que le candidat dont il a parlé, il a quand même posé des actes qui ont porté atteinte gravement à la sécurité, à l'intégrité physique de Congolais, de policiers notamment. Et donc, le président de la République était dans son devoir de garantir la sécurité. Alors, on ne va pas comparer le problème des interahamwés avec un problème d'insécurité qui s'est posé à Kinshasa. Et en tout cas, cela ne lui interdit pas d'appeler des esprits brillants à la tête de ministères ou de gouvernorats, uniquement parce qu'ils ont été militaires dans leur vie.
Oui, Maître Thomas Luango, qu'est-ce que vous pensez également de cette question et de cette nomination des deux officiers supérieurs des FRDC à la tête du ministère de l'Intérieur et à la tête du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa?
Oui, mademoiselle, d'abord, je crois que ce sont des officiers généraux, tous les deux, mais général dans certaines forces. L'autre est amiral, ce qui est l'équivalent d'un général. Ce sont des généraux. Je pense que la situation des généraux est toujours un peu embarrassante parce qu'on les dit toujours, un général a en tout cas des perceptions politiques. Bien sûr, il doit rester neutre. Mais je pense que nous faisons un débat un peu embarrassé parce que de l'un, nous savons, d'après ce que nous apprenons, qu'il a déjà participé à une prise d'armes par laquelle il a été remercié, félicité. Il a été fait, je dirais, honoraire. Donc, il n'est plus d'actif et par conséquent, sauf violation des règles de l'armée, il n'a plus d'ordre militaire à donner. Il pourrait maintenant donner des ordres en tant qu'autorité civile. Oui, deuxièmement, je pense que nous anticipons. Je suppose qu'avant que ces messieurs soient soumis à des formalités, ils vont devoir prêter serment, l'un comme ministre, l'autre comme gouverneur de la ville capitale. Je suppose qu'avant qu'ils prêtent serment, le préalable sera accompli, ils vont remplir les formalités nécessaires pour se trouver libérés des charges, des qualités même d'officiers généraux. Je suppose que ça sera fait.
Oui, Maître Thomas Luango, d'après le colonel Jacques Ebenga, que vous connaissez, qui est notre analyste militaire, la Constitution dit que les militaires doivent être soumis au pouvoir civil, ce qui signifie que pour nommer ces militaires, l'état d'urgence devait d'abord être décrété. Or, l'état d'urgence n'a pas été décrété. Que dit la loi par rapport à ça?
Oui, mais la loi dont parle le colonel Ebenga, que je salue, je le félicite, je l'entends souvent dans ses analyses, je le connaissais déjà d'ailleurs dans des contacts plus ou moins directs, c'est un monsieur d'une intégrité intellectuelle et d'une capacité intellectuelle certainement remarquable, bien qu'il parle de choses qui ne sont pas de mon domaine. Mais cependant, je pense que le schéma est le suivant, le militaire nommé à des fonctions politiques, non pas dans des circonstances exceptionnelles au sens strict, c'est-à-dire état d'urgence, état de guerre ou état de siège. Dans ces trois états, effectivement, il est simplement chargé d'une fonction qui normalement revient à des civils. Dans ce cas-ci, ils sont nommés comme ministre l'un et l'autre comme gouverneur. Donc, ils sont titularisés dans ces deux qualités. Et à ce titre, de toute évidence, ils doivent perdre la qualité d'officier de l'armée, en tout cas d'officier d'actif. Ils garderont l'honneur de leur titre, bien entendu.
Oui, le colonel Jacques Ebenga de Kinshasa nous dit également que le général Luanga n'est pas retraité, il a simplement passé le commandement au général Guy Saint-Pierre. Donc, M. Lambert Mende reste à vérifier ce que vous nous avez tantôt l'a dit. Oui, une réaction, M. Lambert Mende.
Je crois que le colonel Ebenga n'a pas bien suivi la fin de la carrière du général, de l'amiral Luanga. Et en tout état de cause, vous savez, il y a trop de spécialistes dans ce pays. Le colonel Ebenga, que je sache, est médecin. Je ne sais pas ce qui le rend spécialiste de questions militaires.
Nous ne sommes pas là pour parler de spécialistes ou quoi, Monsieur Lambert Mende. Ce n'est pas l'objet de notre émission. Mais nous passons à une autre question parce que jusque là, Monsieur Luenga, vous ne nous avez pas dit quand est-ce que votre composante va procéder au remplacement de leurs membres.
Et ben, avant de répondre à la question, je réagis quand même aux élucubrations de l'honorable Lambert Mende. Et écoutez, je ne peux pas vous laisser dire que votre chef de file est l'artisan de paix dans notre pays. Vous savez très bien, honorable, que les accords de paix ont été signés en 1999 à Lusaka. Il n'était pas encore président de la République. Vous savez aussi, honorable, que la paix relative dans notre pays est la conséquence d'un accord qui a été signé entre les différents belligérants et l'ex-gouvernement de l'époque. Et donc, CAIP, c'est l'ensemble de la volonté de toutes ses composantes, y compris l'ancienne composante du gouvernement, les RCD, les MLC, et bien d'autres composantes militaires rebelles de l'époque. Donc aujourd'hui, dire que c'est une seule personne qui est l'artisan de paix, je crois que c'est de la caricature et qu'il ne devrait pas recevoir des crédits, surtout dans une émission comme celle-ci. Alors, vous avez aussi affirmé à tort, en tout cas, que c'était pour protéger les chars, c'était pour protéger les civils. Non, je ne pense pas. Vous savez que ceux qui ont été tués, ce n'étaient pas des policiers. Vous savez que tout le monde le sait, si vous ne le saviez pas, que c'était des agents de la GSSP déguisés en policiers.
Professeur Richard Walenga, ça c'est un autre débat. Il y a eu même une commission d'enquête. On n'a jamais eu des rapports. Donc on ne va pas revenir à cela, professeur Richard Walenga. Si vous pouvez répondre à la question, quand est-ce que votre composante, par exemple, va procéder au remplacement de leurs membres?
Oui, écoutez, vous avez laissé l'intermédiaire dire ces choses, mademoiselle.
Parce que vous aviez commencé par les dire vous-même.
D'accord, j'insiste d'abord sur cette question parce qu'elle est très importante pour nous. Je vais répondre, il n'y a pas de problème, mais ça fait sur
les Non, le temps vous imparti, si vous pouvez répondre à l'objet de cette émission qui est celle de savoir quand est-ce que votre composante va procéder au remplacement de leurs membres.
J'y ai déjà répondu en vous disant que dans les heures qui suivent, ça va être régularisé. Ce n'est pas un problème que un premier décret soit arrivé ne concernant qu'une composante. Ça va se régulariser. Il n'y a pas de drame par rapport à ça. Mais je voulais dire tout simplement...
Nous poursuivons parce que vous avez déjà répondu à cette question. Et il y a un auditeur, il s'appelle Patrick Wani Kalolo de Bukavu Sud-Kivu. Il demande quels risques les ministres et autres cadres élus qui n'auront pas déposé leur démission après les délais de 8 jours au Parlement. Monsieur le professeur Echaolinga.
Oui, de toutes les façons, quand on parle d'incompatibilité, ça n'appelle pas beaucoup de commentaires. C'est-à-dire que chaque composante, notamment les chefs de ville de chaque composante, devra tirer les conséquences qui s'imposent. On ne peut pas être à la fois ministre du gouvernement et le matin et après-midi, on va à l'Assemblée nationale. C'est incompatible. Donc, je pense que faute d'un choix personnel de chacune des personnes se trouvant dans l'incompatibilité. Et donc, le chef des composantes vont prendre des décisions imposant, par exemple, tel ministre de démissionner du gouvernement et de siéger au Parlement. Mais je crois qu'on n'arrivera pas là. Et les composantes ont fait l'essentiel. Et je vous dis que ce soir, il y aura la suite de décret. Et je pense qu'on n'a pas à s'alarmer par rapport à cette question autour de mesure.
Oui. Un autre auditeur, il s'appelle également Patrick, mais lui c'est Bakwanamaha de Butembo au Nord Kivu, Monsieur Lambert Mende, il demande ces remplacements des députés élus ne causera-t-il pas des désordres durant le temps qui reste pour la transition?
Je ne pense pas qu'il faille craindre des désordres pour la fin de la transition par le fait de remplacer des ministres ou des mandataires qui ont été élus. Je pense qu'il s'agit de l'application simplement des dispositions constitutionnelles. Si on n'avait pas remplacé ces gens, il y aurait eu des ordres, justement. Parce qu'on se serait posé la question, pourquoi viole-t-on la Constitution? Donc il n'y a là vraiment que l'exercice normal des attributions qui reviennent aux composantes, aux entités, et un devoir qu'ils doivent sacrifier vis-à-vis de la Constitution, et ils le font de bon cœur.
Oui, professeur Echaolunga, est-ce que vous êtes du même avis que l'honorable Lambert Mende?
Oui, mais de toute façon, la Constitution est suffisamment claire pour être interprétée par rapport aux incompatibilités. Donc, ce n'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est dans le respect de la Constitution, et je crois que l'option qui consistait à envisager que ce soit des secrétaires généraux, tient pas debout pour des raisons qui ont déjà été évoquées. Notamment, ce ne sont pas des politiques, ce sont des administratifs et ce sont les ministres qui doivent être membres du gouvernement, c'est clair. Et je pense qu'il fallait le remplacer, on va le remplacer. Ils ont déjà été remplacés par une composante, les autres vont suivre.
Oui, maître Thomas Luango, par rapport à la préoccupation de cet auditeur de Butembo, Nord Kivu, est-ce qu'il y a à craindre que ces remplacements des députés élus puissent causer des désordres durant les temps qui restent pour la transition?
Je crains surtout qu'il y ait une équivoque sur la notion de désordre. Effectivement, ce serait un désordre institutionnel si des personnes demeuraient dans des situations incompatibles. Ce serait un désordre. L'auditeur peut-être se dit il va se déclencher des comportements désordonnés. Mais je pense que non. Je pense que on met de l'ordre. C'est vrai qu'il y a certainement des retombées du fait que quelqu'un quitte un gouvernement. Il y a nécessairement des retombées, notamment financières. Et là, nous devons craindre évidemment que le trésor public subisse un coup de ce fait-là.
Alors, suivant cette question de nos auditeurs à partir du Katanga.
C'est David Bouanga, je suis à Manono dans le Katanga. Je voudrais poser la question suivante. Si les nouveaux membres du gouvernement de transition continueront après installation de nouvelles institutions ou ils cesseront leurs fonctions avec la fin de la transition en cours?
Oui, professeur Echawalunga.
Oui, la réponse est très simple, c'est-à-dire que dès qu'on aura élu le président de la République, dès qu'il aura nommé le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, ce dernier va composer le gouvernement, selon la majorité parlementaire, et à partir de ce moment-là, les ministres qui vont être nommés et qui n'ont pas été changés vont devoir naturellement céder la place aux ministres qui seront issus des élections, tout simplement.
Et si par exemple les candidats que vous soutenez venaient à gagner les élections, donc est-ce par exemple ceux-là que vous avez nommés à ces jours, est-ce qu'ils vont rester avec les nouvelles institutions de la transition?
Ah, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui puisse prétendre avoir un droit acquis à être et à demeurer ministre. Tout est question de la volonté de celui qui a le pouvoir de nommer et de révoquer. Et si quelqu'un est nommé aujourd'hui ministre et que sa composante, le chef de file de sa composante, et gagne l'élection présidentielle, eh bien il appartiendra au chef de file de décider si tel ministre est contenu au sein des institutions gouvernementales ou il le remplace par quelqu'un d'autre.
Oui, honorable Lambert Mendes, serait-ce le cas également pour votre composante, hein, les personnes que vous avez nommées, est-ce qu'ils peuvent rester même pour continuer avec les nouvelles institutions de la transition?
Je crois que mon interlocuteur a tout à fait raison. Le président, lorsqu'il est élu, il désigne un formateur. Ce formateur négocie avec la majorité parlementaire. Et à ce niveau-là, si le ministre qui est actuellement en fonction dans le gouvernement de transition a la confiance de ceux qui vont proposer au président l'équipe du gouvernement, eh bien, il n'est pas exclu qu'il puisse revenir, mais cela n'est pas acquis, pas du tout.
Alors avant de passer aux opinions des auditeurs, si vous pouvez répondre également à la préoccupation de notre auditeur qui nous a écrit en Lingala, il s'appelle Kasereka Christophe na Gemé na Équateur. Natuni, est-ce que député Oyo ba démissionné na ba poste na bango ya kala? Est-ce que ko nommé bango lisusute na prochain gouvernement? C'est pratiquement la même question que nous avons posée.
Kasereka na kanisi motuna moyo to ya nulaki yango na français, mais sengeli na loba na Lingala ete soki ozali ministre na gouvernement ya mikolo Oyo ya transition. Et que parti nayo a gagné élection, mokonzi na ya parti wana abimi président, abimi mokonzi ya majorité na parlement, tango bako sala gouvernement, oye outi na élection na majorité ya parlement, soki ba moni ete yo koki kozala na gouvernement wana bako pono yo. Kasi ezali garanti mon côté, ba ezali koloba te ke soki ozali na parti ya mokonzi oyo a gagné élection dès au cause à la ministre Isusu. Ezali kaka bato ba otine élection dès bakopona.
Donc voilà, nous avions déjà répondu à cette question en français et nous passons tout de suite aux opinions des auditeurs avec vous, Babel Mpongo. Bonsoir.
Bonsoir Broyo. Nous avons Jérémy Poba de Kanzi au Bas-Congo. Il pense que la nomination des militaires est un signal de retour vers la dictature. Isidore Mwamini de Bukavu au Sud-Kivu trouve que le remaniement en cette période période est stratégique pour renforcer des occasions de tricherie au deuxième tour. Dorothée de Bounia, province orientale, estime que la nomination des militaires prédit la préélection. Philippe Chematia, Goma en Nord-Kivu, invite les responsables des composantes à combler les vides pour éviter de perdre du temps inutilement. Sylvain Akikwit au Bandundu invite les autres composantes à ne pas aller à l'encontre du jeu politique. Mokili de Kasongo Manima demande aux députés élus de démissionner sans délai pour accomplir les promesses qu'ils ont faites pendant la campagne. François de Lubumbashi au Katanga estime qu'on aurait dû laisser des vices ou les adjoints des personnes élues assumer l'intérim au lieu de procéder aux nouvelles nominations. Un autre auditeur pense que la nomination des militaires prouve que le chef de l'État se prépare à quelque chose pendant la période électorale. John Moudé, roi de Goma en Nord-Kivu, estime qu'encore une fois, le chef de l'État vient de se dévoiler en décrétant un état d'urgence avant terme, montrant ainsi son agenda caché. Enfin, Richard Kabanangi de Lubumbashi au Katanga dit ceci, « Nous avons besoin des hommes qui ont le souci des autres au gouvernement pour servir et non s'y servir. »
Voilà, nous commençons par vous, Monsieur Echawa Luenga. Est-ce que vous pouvez réagir à ces opinions des auditeurs et vous avez 45 secondes pour le faire.
Oui, la population congolaise prouve par ses interventions qu'elle est de plus en plus moins idiote, moins imbécile et de plus en plus, en tout cas, très intelligente parce qu'elle arrive à cerner les problèmes. J'ai exprimé cette crainte qui est d'ailleurs exprimée par la plupart des Congolais à travers les médias, c'est que cette option militariste est plutôt inquiétante, plutôt qu'elle ne rassure. Alors, je respecte et je crois que je dois accepter et faire confiance à l'honorable Lambert Mende qui nous assure que les deux militaires sont à la retraite, ils sont de retraités, mais si tel n'est pas le cas, en tout cas, c'est une option à déconseiller et une option inquiétante. Ils devaient d'abord régulariser la situation, c'est-à-dire démissionner de l'armée d'abord et ensuite être nommé sans problème.
Oui, Monsieur Lambert Mende, si vous pouvez également réagir à ces opinions des auditeurs.
Je constate, contrairement à mon estimé interlocuteur, que 4 intervenants sur les 8 demandent de combler les vides. Ils demandent aussi que les députés élus qui sont en incompatibilité puissent démissionner pour faciliter les choses. C'est vrai, il y en a 3 qui craignent la dictature, qui craignent qu'il y ait un état d'urgence avant terme, mais je dis quand même, il y a un grand nombre qui comprend les motivations, et nous avons besoin de rassurer les 3 autres qui, à l'instar de mon collègue, pensent qu'il y a Anguille Souroche. Non, je voudrais simplement dire qu'il y a un statut personnel de ces fils du pays, ce sont des Congolais, et il y a pas mal de Congolais, même dans le gouvernement, même au niveau des candidats, au niveau du second tour. Tous les 2 candidats ont été militaires à un moment donné. À un moment, ils ont renoncé pour se lancer dans la politique. Pourquoi empêcher que ces 2-là, auxquels on fait appel aujourd'hui pour résoudre des problèmes concrets de sécurité, si l'un a atteint son statut de retraité et que l'autre peut remplir cette condition, comme l'a dit notre frère qui intervient de Bukavu, pourquoi empêcher le pays de bénéficier de ces grands esprits? C'est parmi les plus grands esprits dont ce pays compte. J'aurais aimé que mon frère connaisse mieux et il comprendra que le pays peut beaucoup profiter.
Oui, mais M. Lambert Mende, le temps vous imparti s'est écoulé. Maître Thomas Luango, également, si vous pouvez réagir en une minute à ces opinions des auditeurs.
Oui, mademoiselle, je félicite les auditeurs. Ils ont des opinions assez diversifiées, ce qui est une bonne chose. Donc, le débat, la pensée est libre dans ce pays. Ça se voit aujourd'hui. Mais en deuxième lieu, je crains simplement que les craintes qui sont normales, un homme doit s'inquiéter de l'avenir. Mais il ne faudrait pas quand même que ces craintes deviennent un blocage, que les gens se fixent sur le pessimisme. Je pense que ce qui est important, c'est que ceux qui décident, ceux qui nous gouvernent, sachent quelles sont nos craintes et qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour nous rassurer. Je voudrais d'ailleurs dire un peu en juriste qu'il ne faut pas consacrer dans ce pays la présomption de mauvaise foi. Il faut toujours quand même, même comme chrétien, espérer que l'autre est de bonne foi. Nous ne pouvons pas construire le pays si nous n'avons pas cette prédisposition. Bien sûr, ne pas être naïf, rester vigilant, mais quand même ne pas présumer la mauvaise foi.
Merci.
Je remercie les auditeurs.
Merci, maître Thomas Longo, pour votre participation. Nous disons également merci au professeur Echalwenga d'avoir accepté cette invitation. Également à l'honorable Lambert Mende. Cette émission sera rediffusée demain matin à 4h45 heure de Kinshasa sur le site internet. Elle sera disponible sur www.radiokapi.net. Sur onde ou courte, nos auditeurs peuvent la suivre sur 11690 kHz. Et donc, au nom de toute l'équipe des dialogues entre Congolais qui a préparé cette émission, nous vous disons merci et à la prochaine. Oh,